Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire pour l'émission Au fil des pages, une émission proposée par les passionnés du livre et de la lecture, en compagnie de Nathalie et Francis, et moi-même, Frédéric, à la technique. De 17h à 18h30, les 2e et 4e mercredis de chaque mois sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et en plus, sur le net, vous pourrez vous connecter sur le site de Radio Libertaire pour avoir le direct ou le podcast. Je repasse maintenant la parole à Francis.
Merci Frédéric, bonne fin de journée à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver, il est un peu plus de 17h et grâce à Frédéric nous pouvons diffuser cette émission sur Radio Libertaire. Oui, un titre au fil des pages pour des passionnés du livre qui aiment lire. L'émission sera scandée de temps plus ou moins long permettant à chacun de s'exprimer et les séquences d'aujourd'hui sont tout d'abord intitulé « Pour alimenter le débat », c'est-à-dire la présentation d'un premier livre consacré à quelqu'un que nous aimons beaucoup dans l'émission Au fil des pages, Élisée Reclus. Et c'est un livre écrit par Roméo Bondon, « Le bestiaire libertaire d'Élisée Reclus ». Ensuite, dialogue, la rencontre avec un témoin du livre. Il parlera peu, mais au vu de la quantité de livres publiés sur lui et sa place dans la société et dans notre environnement, il nous invitera à une réflexion sur la place du sauvage dans notre monde. Ensuite, un temps d'histoire, un autre personnage que nous aimons beaucoup, Albert Camus, avec un livre regroupant ses discours, ses conférences, et certains textes nous font comprendre l'histoire, tandis que d'autres sont d'une actualité totale. Un second livre dans cette rubrique « Un temps d'histoire » est relatif à une erreur judiciaire. L'affaire Dreyfus des pauvres, comme l'a qualifié Jean Jaurès. L'affaire Durand, un clin d'œil à nos amis du groupe de Rouen. Et puis, une pépite, si nous avons le temps. Aujourd'hui, car vous avez peut-être constaté qu'à chaque émission, nous passons des morceaux de jazz, eh bien c'est Bill Evans qui nous accompagne. Fred, tu nous remets encore un petit peu de musique ?
Élisée Reclus. Alors Francis, peux-tu nous rappeler qui est Élisée Reclus ?
Alors, Élisée Reclus, nous connaissons le géographe, le militant anarchiste, le communard, le pacifiste, mais Élisée Reclus est aussi un défenseur des animaux qu'il considère comme des semblables, des frères. Dans son engagement, il s'affirme dès 1849 avec son frère Élie comme un végétarien. Ne pas manger de chair qui résulte du massacre d'êtres vivants est un choix personnel, en estimant que si nous faisons peu de choses, du moins ce peu sera notre œuvre. Kropotkin, un de ses grands amis géographes, souligne « Un pain, une pomme, du raisin, c'était tout ce qu'il lui fallait pour vivre et travailler. Il était anarchiste jusqu'au plus profond de son intelligence, jusqu'à la moindre fibre de son être. Il sut rester pauvre, absolument pauvre, malgré les succès de ses livres. »
Roméo Bondon, géographe de formation, nous livre là un petit opuscule qui synthétise très intelligemment la pensée de Reclus sur la question animale. Que trouve-t-on dans ce livre ?
Eh bien, il présente une biographie qui démontre l'engagement de l'intellectuel présent sur le terrain de son objet d'étude, en lien avec des réseaux de correspondants dans le monde entier qui contribueront d'ailleurs à lui sauver la vie après sa condamnation pour sa participation à la Commune de Paris. Sa production est fascinante. Une nouvelle géographie universelle en 19 volumes, L'Homme et la Terre, des centaines d'articles de fond publiés dans le monde entier, et toujours sa vision profondément humaniste qui allie l'animal et l'homme dans une approche globale. « J'embrasse, dit-il, aussi les animaux dans mon affection de solidarité socialiste, évidemment anarchiste. »
Et comment Reclus souhaite-t-il assurer l'émancipation des individus ?
Eh bien, l'émancipation des individus passe, selon lui, par l'éducation, vécue comme un transfert de savoir. Et s'adressant à son public, il affirme « Ce n'est point entre nous que l'on pourra parler de maître à disciple. Il faut donc expliquer et convaincre son auditoire de la nécessité du respect des animaux et toujours dans la non-violence. »
Et d'où lui vient ce choix d'être végétarien ?
Pour bon nombre de végétariens, souvent c'est l'horreur d'un fait. Et là, c'est son horreur de l'abattage provient d'un souvenir d'enfant, celui du cochon qui pousse dans sa lente agonie des cris presque humains. Sa description fascinante aussi des abattoirs de Chicago souligne l'industrialisation de la mise à mort en une journée de milliers de bêtes. L'homme n'est plus, et l'animal plutôt, n'est plus qu'un matériau. Il dénonce l'élevage. Nous avons eu pour préoccupation capitale d'augmenter les masses de viande et de graisse qui marchent sur quatre pieds, de nous donner des magasins de chair ambulante qui se meuvent à peine du fumier à l'abattoir. Il en est de même pour la pêche, d'ailleurs, pour lui. Et associant l'homme et l'animal, il fait le lien avec la place de l'individu broyé dans les usines.
Qu'en est-il du lien entre l'homme et l'animal ? Car c'est, je crois, un autre aspect intéressant de sa pensée.
Oui, c'est la porosité entre l'homme et l'animal. Chacun n'étant jamais assuré de ne pas redevenir l'autre. La perméabilité régressive de la barbarie, la perméabilité progressive de l'évolution, considère un commentateur du livre, Claude Guest. Il mise donc sur l'éducation, on apprend des animaux. Et si l'homme et l'animal n'avaient pas de secret l'un pour l'autre, c'est que les bêtes parlaient et surtout que l'homme comprenait. Nous retrouvons un écho de cette affirmation dans les écrits de Lévi-Strauss et certains ouvrages de la collection Terre humaine. On aura l'occasion de reparler dans d'autres émissions de cette excellente collection. L'inquiétude transparaît dans ces textes quant à la dégradation irréversible des territoires par l'homme, la disparition d'espèces animales, l'asservissement des individus. Enfin, Élisée Reclus, c'est aussi un style, une écriture simple, lisible, qui allie science et sensation. On ne rend compte d'une réalité qu'en allant sur le terrain, le ressentant. D'où sa passion pour la marche. Chacun d'entre nous est un résumé de tout ce qu'il a vu, entendu, vécu, de tout ce qu'il a pu assimiler par les sensations. Et il faut montrer la beauté du monde et la souhaiter à nos frères vivants, dit-il. Nous voulons autour de nous un milieu qui plaise au regard et qui s'accorde avec la beauté. Ce livre, petit ouvrage de Roméo Bondon, Le bestiaire libertaire d'Élisée Reclus, a été édité aux éditions de l'Atelier de création libertaire en 2020. Et comme tous les autres livres que nous commentons, il est disponible à Publico, la librairie de la Fédération anarchiste. Un peu de musique, Fred ? Deuxième séquence dans cette émission, dialogue. Oui, vous le connaissez. Vous le connaissez, ce témoin, et même depuis votre plus tendre enfance. Il nous invite à réfléchir, comme nous l'avons dit, sur la part du sauvage dans notre société. Donnons-lui la parole rapidement, et ensuite nous aborderons trois livres à son sujet. Frédéric, tu nous mets en liaison, là ? Fred est notre meneur de loup, pour reprendre le titre d'un roman d'Alexandre Dumas et d'une nouvelle de George Sand. Vous avez entendu effectivement le loup. De tous les animaux vivant en France, le loup exerce, et oui, de tous les animaux vivant en France, car le loup est revenu en France. Il n'a pas été réintroduit, comme on l'a dit bêtement, il est revenu naturellement, et le loup exerce toujours une fascination qui suscite des passions, des peurs, des angoisses, des adorations, relevant toutes plus ou moins de la part d'irrationnel. Et vous verrez cette notion de part d'irrationnel. Entre les amoureux transis affirmant que le loup n'a jamais attaqué l'homme, ce qui est parfaitement faux, et les opposants farouches souhaitant que la moindre trace de sauvage disparaisse de notre environnement, y a-t-il une place pour l'équilibre et la raison ? Trois ouvrages sur le loup retiennent notre attention. Il y en a beaucoup d'autres, mais une vision historique et culturelle, celle de Michel Pastoureau, que Nathalie va nous présenter dans un instant, une analyse historique et sociologique, celle de Jean-Marc Morisseau, et une approche sur l'actualité de la place du loup, celle de Caroline Audibert. Nathalie, alors, Michel Pastoureau.
Oui, Michel Pastoureau, nous le reconnaissons comme un spécialiste des couleurs. Ses textes sur le rouge, le noir sont des sommes d'expertise. Il est aussi celui qui a écrit sa thèse sur le bestiaire héraldique médiéval et un ouvrage consacré à l'ours, un animal complexe aussi, mais qui peut être plus discret au 19-20e siècle, a moins pesé dans la mémoire populaire. En 2018, il publie son livre « Le loup, une histoire culturelle ». Il nous donne une vision globale, le loup à travers l'histoire, et pas simplement celle de la France, mais aussi dans la préhistoire, peu représentée sur les parois. Dans l'Antiquité grecque et romaine, nous retrouvons les Lupercales, des fêtes sous la Rome antique. Nous retrouvons la Louve romaine, qui protège Rémus et Romulus. Nous retrouvons la formule « Homo hominis lupus », « L'homme est un loup pour l'homme ». Dans la culture scandinave, il représente Odin. Il est féroce. Au Moyen-Âge, comme le relève Pastoureau, le loup est moins inquiétant que l'homme. Dans le célèbre roman de Renard, le loup, Isengrin, est bête. Il se fait avoir par le renard, sa femme Hersan le trompe et elle est lubrique. C'est une louve. Lupa, lupae, féminin en latin, est aussi une prostituée, d'où le lupanard. Puis, le bizarre commence à apparaître. Dans un lait de Marie de France, surgissent les termes garou et loup-garou, le sauvage et l'humain se mêlent. C'est au sortir du Moyen-Âge que les attaques du loup se concrétisent. Il a moins à manger, il rentre dans les villes et s'attaque à ce qui est faible, les troupeaux, les enfants, les femmes et les voyageurs isolés. Les récits fourmillent d'attaques du loup qui est beaucoup plus intelligent qu'il en grain. Ce serait ridicule de prétendre que le loup n'attaquait pas l'homme.
Et d'ailleurs, l'ouvrage de Jean-Marc Morisseau, consacré à la bête du Gévaudan, Mythe et réalité, insiste sur ce point. Et les attaques, la liste des attaques sur tout le royaume, car des bêtes, il y en avait ailleurs que dans le Gévaudan, démontre les causes de la peur du loup. Il faut souligner d'abord le cas des loups enragés. La rage faisait perdre toute mesure, et pas que chez les loups d'ailleurs. De plus, ce sont des animaux très résistants. Une chronique relate une chasse qui débute à Rambouillet, dans le sud des Yvelines, et qui s'achève à proximité de Rennes. Derrière le même animal, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et puis les légendes, les superstitions animent toutes les campagnes. Georges Sand en rapporte dans ses légendes rustiques, illustrées par son fils Maurice, le célèbre dessin où on voit des loups-garous le long d'un mur, est assez connu. Et revenons à Michel Pastoureau. Son livre contient d'ailleurs une magnifique iconographie et vous découvrirez même, et ça, on ne vous le révèle pas, vous découvrirez cette très jolie légende du loup et de la lune, et vous comprendrez pourquoi le loup regarde le ciel quand il hurle. Pour les passionnés du loup, ce livre est vraiment un beau cadeau. Mais Jean-Marc Morisseau, revenons à l'historien spécialisé dans les sociétés rurales, Jean-Marc Morisseau est un spécialiste du monde paysan. Et dans une autre émission, nous parlerons de ses livres sur la mémoire des croquants, c'est comme ça qu'on appelait les paysans, et la mémoire des paysans plus tard. Bon, mais dans la lignée de cette chronique, abordons la réactualisation de son dernier ouvrage consacré à la bête du Gévaudan. Son récit se lit d'une traite. Il sait écrire, il sait rendre l'intérêt. Bon, il reprend chaque événement, chaque agression, s'interroge sur les échecs dans la chasse et doute en bon historien. Comment a-t-on pu mobiliser autant de soldats, de chasseurs, de paysans pour ne pas pouvoir tuer l'animal? Et il est probable qu'il y avait plusieurs loups dans cette grande région. Et il est peut-être probable même que ceci ait connu une imprégnation, c'est-à-dire, goûtant la chair de l'homme, ils ont pris l'habitude de manger de l'homme, surtout enfants, si faciles à égorger. C'est rarement des hommes adultes en pleine forme qui sont attaqués, c'est plutôt des enfants que les paysans, d'ailleurs ça c'est intéressant à noter, que les paysans laissent garder des moutons, garder des bovins, et c'est assez intéressant de voir que parfois ce sont ces mêmes bovins qui vont défendre les enfants. Et la technique d'ailleurs pour égorger est toujours la même, c'est assez intéressant de voir ça. Et donc d'un mythe historique, le loup devient ensuite un mythe littéraire. Et n'oublions pas que pour les populations de l'époque, et pour une part de l'opinion publique d'aujourd'hui, la persistance définitive d'une zone d'ombre a rencontré le vieux fond irrationnel de l'humanité. Et c'est vrai que quand on entend le loup, le cri du loup comme on l'a entendu tout à l'heure, ou quand on apprend dans la presse qu'il y a un loup dans le nord des Yvelines, ça se traduit par « les loups sont aux portes de Paris ». On a un loup qui est perdu du côté de la Seine-Maritime, ça y est, le loup est au bord de la Manche. Bon, c'est assez intéressant, on ne va pas faire la même chose pour des renards, Non, le loup c'est vraiment un animal mythique. Et la seconde partie de l'ouvrage de Morisseau est de nature à créer un débat intelligent et argumenté. Et J'aime bien, d'ailleurs, cette conclusion de Jean-Marc Morisseau. Tu peux peut-être nous en donner lecture, Nathalie ?
Oui, je cite « Bien des pages restent à écrire. La bête féroce vient rappeler à l'homme ses limites dans la maîtrise de l'espace et de l'environnement. Mais elle interroge aussi la place qu'il recherche sur la Terre. À ce titre, la bête du Gévaudan, qui met en lumière une région longtemps oubliée et des conceptions divergentes sur l'humanité et la biodiversité, conserve tout son pouvoir de suggestion. Et nous en arrivons, Francis, au livre de Caroline Audibert.
Alors, Caroline Audibert, en effet, en juillet 1993, le père de Caroline, lors d'une de ses marches dans les montagnes du Mercantour, à la recherche de champignons, s'étonne de la présence sombre autour d'un mélèze. Il s'approche et découvre les restes d'un animal. Il a du mal à le croire, et pourtant, il découvre le premier cadavre d'un loup en France depuis l'éradication de l'espèce à la fin des années 30, particulièrement en 1937, dans le département de la Haute-Vienne. Voilà le début de la grande aventure du retour du loup sur le territoire français. Bon, on pense qu'il est arrivé en 92, hein, pour trouver un cadavre en 93, ça paraît assez cohérent. Et l'animal, comme on l'a dit, il semble appartenir aux légendes. La littérature a produit quantité de romans, de poèmes. La mort du loup, c'est célébrissime, sans oublier le cinéma, la peinture. Bref, le loup hante notre culture, même en étant absent. Alors imaginez, lorsqu'il est peut-être à deux pas, caché dans les fourrés. La peur ancestrale remonte à la surface. Et au-delà de la dimension littéraire de l'ouvrage, car le livre est très bien écrit et d'un style haletant, Caroline Audibert pose la question du vivre ensemble entre les hommes et le monde sauvage dont le loup se révèle dans notre société le symbole. Alors, je m'attendais, en ouvrant ce livre, à un plaidoyer pro-domo dans le style, vous savez, de ces écolos-bobos du monde urbain qui achètent bio et qui, paradoxalement, poussent des cris d'orfraie à la vue du moindre animal sauvage dans leur environnement. Eh bien, pas du tout. Sans doute parce qu'elle est issue de ces terres du Mercantour auxquelles elle a consacré plusieurs ouvrages et documentaires. Caroline Audibert sait traduire l'inquiétude des éleveurs. Et oui, moi, je ne les néglige pas, bien au contraire, ce sont des gens qui travaillent. Et la douleur à la vue d'un troupeau précipité dans le ravin par les attaques de loups, vous savez que les moutons, les célèbres moutons de Panurge, les moutons, quand ils ont peur, se précipitent et les premiers qui va dans une direction, les autres suivent. Et moi, j'ai déjà vu un troupeau, lorsque vous avez 250 têtes de moutons qui sont précipités dans un ravin et qui meurent, c'est dramatique pour l'éleveur. Dramatique aussi pour les moutons d'ailleurs. N'oublions pas, à la différence des bovins, qui ne sont guère importunés par les loups, que le mouton n'a pas de défense naturelle. Ces pages recèle d'ailleurs des cris de rage de la part des éleveurs. Et toute une vie, un investissement dans des conditions de travail difficiles, parfois détruit par un loup ou une meute, qui prélève un ou deux moutons, mais en détruit 200-300, puisque les moutons ensuite vont soit être stressés, soit mourir dans les conditions que j'ai évoquées précédemment, et bien ça crée une rage, une tension. Et ces éleveurs ne sont pas de richissimes agriculteurs. Ils vivent, pour certains, de peu, et ont le sentiment de ne pas être écoutés par les gens de la ville, les gens du parc national du Mercantour, les fonctionnaires de la préfecture. Alors, ils sont réceptifs aux rumeurs. comme celle de la réintroduction du loup à l'initiative des pouvoirs publics. Ça, il faut le dire, ce n'est pas vrai. Le loup n'a pas été réintroduit par les pouvoirs publics. Le loup est revenu naturellement parce que, tiens, un truc idiot, c'est que le loup vient d'Italie et que le loup ne respecte pas les frontières. Incroyable ! Le loup traverse les frontières, surtout quand vous connaissez le massif du Mercantour, on n'a aucun souci. Ils y croient même... encore davantage lorsque des élus nationaux utilisent et manipulent leurs angoisses à des fins politiciennes. Il y a un certain nombre de parlementaires, de maires de grandes villes dans ce secteur-là des Alpes et de la Côte d'Azur qui vont utiliser le drame des éleveurs vraiment à des fins d'opposition et d'élimination de toute démarche de réflexion sur la place du sauvage dans notre société.
Alors, ces éleveurs, que font-ils pour se protéger ?
Alors, ils sont conscients de la présence a priori définitive de ces animaux. Ils savent bien que, de toute façon, il y a une réglementation qui interdit de chasser le loup, même si, ne rêvons pas, il y a un certain nombre de braconniers et on se rappelle de cet élu qui avait offert à un préfet, au moment de son départ, une queue de loup, ce qui est quand même assez extraordinaire de non-respect de la réglementation par un élu qui n'était pas un petit élu local, mais qui était à la tête d'une grande collectivité. Donc, ces éleveurs s'équipent de filets, de radars. Ils acquièrent des chiens patous, qui provoquent d'ailleurs parfois des accidents avec les randonneurs. Mais l'animal sauvage est intelligent et profite des moindres failles. Une fenêtre en hauteur mal fermée et il rentre dans la bergerie. Combien d'expressions de notre langue montrent la proximité et la cohabitation entre le loup et l'homme ? Qui est chez qui ? Et ça, qui est chez qui ? L'homme chez le loup ou le loup chez l'homme ? Dans la vallée des merveilles, au cœur du massif du Mercantour, il existe une gravure de loup, il y en a très peu d'ailleurs, une gravure de loup datée de 6000 ans. Les hommes et les loups ont toujours coexisté avec plus ou moins de bonheur. Et les échappées de l'auteur dans l'histoire, les autres continents, la mythologie, on a parlé tout à l'heure de la louve romaine, la littérature relève de l'épopée romanesque alliée à une grande rigueur dans l'analyse de la situation. Vraiment, c'est un ouvrage très intéressant.
Oui, les rivalités entre les éleveurs et les défenseurs traduisent des positions irréconciliables. Des propos absurdes sont échangés. « C'est la faute à l'Europe !» revient le plus souvent. Les éleveurs n'ont pas à se plaindre. Ils sont indemnisés largement par l'État. Ce dernier point mérite débat. Certes, l'indemnisation des dommages causés par le loup coûte chaque année 2,6 millions d'euros. Au-delà des tracasseries administratives, les éleveurs soulignent qu'il leur faut rapporter les cadavres comme preuve. Pas toujours facile à retrouver dans la montagne. Mais pour eux, c'est oublier les dommages collatéraux, le stress du troupeau, les avortements, les brebis stériles. Certains groupes d'écolos ont été tentés par l'action directe, comme la destruction d'un pont, ce qui a isolé des villages pendant plusieurs mois. Non, vraiment, se lancer des anathèmes ne règle rien. Sinon, c'est le loup le grand perdant, car le braconnage, le poison viendront à bout de l'animal. Il faut travailler à des solutions efficaces. Certains bergers ont été jugés pour avoir tué des loups, mais la froideur de la justice ne répond pas à la complexité du problème. Comment assurer la coexistence ? Il n'y a pas d'espace sauvage, naturel, en France. L'homme est quasiment présent partout.
Le loup exerce une fascination dans l'esprit des hommes, une attraction totémique. Qui a vu ses yeux fauves dans la nuit ? Entendu les hurlements dans la montagne, ressent cette peur ancestrale. Et un agent du parc raconte justement sa peur la nuit, dans un village abandonné, et sa crainte de les savoir tout près sans les voir. En effet, l'animal a une extraordinaire capacité à se cacher et nous à ne plus savoir regarder. Je me rappelle d'une randonnée que j'avais faite dans le Vercors, au milieu d'un brouillard relatif. J'avais repéré des traces. Ils étaient peut-être là, dans les rochers, les buissons, l'environnement. On ne les voyait pas. Ils sont chez eux. Et je n'oublierai pas non plus cette rencontre qui n'a duré que 20 à 30 secondes sur la crête de la montagne de Lure, où j'ai croisé un loup à peut-être 60 mètres. Et le loup m'a vu et s'est reprécipité dans les fourrés. La rencontre avec le sauvage est vraiment un moment extraordinaire, je dirais inoubliable. Et finalement, vous savez, l'affirmation dans Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose, doit être repensée. Longtemps, la nature paraissait inépuisable et à la disposition des hommes. Rappelez-vous la Bible, etc. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde fini, clos, et la phrase d'Élisée Reclus prend tout son sens. L'homme est la nature prenant conscience d'elle-même. C'est mieux que l'homme est la mesure de toute chose, prenant conscience d'elle-même. La présence du loup nous invite à repenser notre place dans cet environnement fragile.
Merci Francis. Alors nous avons donc parlé de trois livres. Michel Pastoureau, Le Loup, une histoire culturelle, publié aux éditions du Seuil en 2018. Jean-Marc Morisseau, La bête du Gévaudan, mythe et réalité, aux éditions Texto en 2021. Et pour finir, Des loups et des hommes, enquête en France sauvage de Caroline Audibert, publié aux éditions Plomb, Terre humaine, en poche, en 2019.
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary.
Oui, effectivement, ces livres que nous commentons depuis déjà plusieurs émissions, eh bien, vous les retrouvez chez Publico. Publico, c'est donc une librairie qui est sensibilisée sur le mouvement anarchiste, évidemment, puisque c'est la librairie de la Fédération anarchiste. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que vous avez des livres sur la théorie, vous avez des livres sur les grands moments, que ce soit la guerre d'Espagne, que ce soit la Commune, que ce soit l'expérience de Macnaw en Ukraine, mais vous avez aussi des livres sur justement les questions environnementales, un certain nombre de nouvelles luttes, mais notamment sur les questions environnementales, et c'est donc la raison pour laquelle on a trouvé intéressant de vous présenter ces livres sur le loup. Et il y a d'autres livres qui portent sur le sauvage. Nous n'aurons pas épuisé ce thème.
Nous allons donc maintenant passer à une chanson de circonstance interprétée par Juliette. Les loups sont entrés dans Paris. Voilà, ça va partir. Attention, c'est parti.
Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout, leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage, alors les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmante Elvire, les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue leu-leu, dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue, alors les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris. Tu peux sourire, charmante Elvire, les loups regardent vers Paris. Et voilà qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Voler clon, claquer des dents, même dans les beaux arrondissements. Et plus personne n'osait le soir affronter la neige des boulevards. Alors deux loups sont entrés dans Paris, l'un par ici, l'autre par Ivry. Deux loups sont entrés dans Paris. Ah, tu peux rire, charmante Elvire, deux loups sont entrés dans Paris. Premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Criveuil. Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, cent loups sont entrés dans Paris, soit par ici, soit par Ivry. 100 loups sont entrés dans Paris, cessez de rire, charmante Elvire, 100 loups sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que 3 pattes, c'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême Prenant. Il fit faire maigre à ses enfants et leur offrit 6 ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors les loups ont envahi Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups ont envahi Paris. Cessez de rire, charmante Elvire, les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des milliers des sangs faire carousse, guiesse et bombance dans ce foutu pays de France, jusqu'à ce que les hommes trouvaient l'amour et la fraternité. Alors les loups sont sortis de Paris, et par ici, et par Ivry. Les loups sont sortis de Paris. Tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris. Les loups, les loups.
Troisième temps de notre émission, troisième séquence.
Bah justement, un moment d'histoire. Un autre personnage que nous aimons bien, Albert Camus. N'oublions jamais qu'Albert Camus a toujours été proche des anarchistes et chacun se rappelle de son célèbre livre « L'homme révolté » où il a un discours qui est quand même tout à fait intéressant pour nous. Et là, je voudrais parler d'un livre qui regroupe ses conférences et ses discours. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, certains textes nous font comprendre l'histoire, d'autres sont d'une actualité totale. Alors, évidemment, tout le monde connaît Albert Camus, ses romans, ses pièces de théâtre, ses livres philosophiques. Et après avoir été vilipendé de son vivant par une certaine intelligentsia, il vit désormais sous une certaine gloire. Lui qui était si modeste, comme il le montre d'ailleurs dans sa dernière intervention, « Ce que je dois à l'Espagne » après avoir reçu le prix Nobel de littérature. Voici l'excellent recueil de discours et de conférences publié par les éditions Gallimard dans la collection Folio. L'ouvrage permet de mesurer l'engagement croissant de Camus qui n'oublie pas ses racines. Ainsi, la première intervention date de 1937. Albert Camus a 23 ans et le thème qu'il développe s'intitule « La nouvelle culture méditerranéenne ». Cet hommage à la Méditerranée n'est pas sans rappeler les pages de Fernand Braudel, un autre amoureux de cette mer intérieure, qui, comme il le disait, rapproche les peuples au lieu de les séparer. Alors c'est sûr qu'il y a eu un certain nombre de guerres, un certain nombre de massacres entre ces peuples de l'Antiquité à aujourd'hui, mais Braudel, qui est un grand historien, a montré justement cette culture commune. Et donc, c'est cette ode à la culture transfrontalière et aux différentes cultures se retrouvera dans l'appel de Camus pour une trêve civile en Algérie, si peu entendue, car couvert par des cris de haine et couvert par les cris de haine, bah, notamment de ces pieds noirs qui ne voulaient pas entendre une quelconque accord, paix entre les hommes. Et parlant justement des hommes, des individus, il affirme, Camus, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont ensemble et qu'ils mènent ensemble le même combat. Et leur devoir est de travailler pour la connaissance et de créer par là les valeurs universelles qui nous permettront de vivre le cœur en paix dans un monde en paix. Malheureusement, le mot de paix n'était pas audible à cette époque et il faudra qu'on ait malheureusement des milliers de morts des deux côtés. C'est absolument dramatique.
Il fut aussi un écrivain qui était au premier rang pour dénoncer les régimes totalitaires.
Et oui, et l'ouvrage montre un écrivain, un acteur de la vie publique qui sait utiliser les concepts qu'il travaille pour les mettre au service des valeurs de la civilisation et évidemment, au premier plan, la liberté. Il dénoncera les crimes des franquistes, ceux des dictatures de l'Est, les répressions contre les ouvriers, notamment à Poznan, en 1956, et de ces États totalitaires, contre-révolutionnaire. Ces régimes qui obligent. Le père a dénoncé le fils. Le fils a réclamé le châtiment suprême pour le père. La femme a témoigné contre le mari et qui ont élevé la délation à la hauteur d'une vertu. Là, c'est assez étonnant parce que pour ceux qui ont vu des films, notamment sur les polices politiques, notamment en Europe de l'Est, eh bien c'est quand même tout à fait intéressant de voir que les ennemis et les dénonciateurs étaient parfois au sein de la famille, au sein du couple. Et dans cette phrase, on retrouve aussi les références en filigrane de L'homme révolté, l'ouvrage dont je parlais tout à l'heure. L'un de ces ouvrages les plus aboutis pour dénoncer les dictatures de toute sensibilité, de toute couleur. Ce qui lui valut d'ailleurs les insultes des intellectuels du boulevard Saint-Germain. Il fut un des rares au sein de la gauche à proposer une alternative au socialisme césarien, comme il le formule dans une conférence en 1951. Pour nous, c'est plutôt sympathique, puisque ni Dieu ni César ni Tribun, pour reprendre l'une des formules de l'Internationale, eh bien, nous ne sommes pas du socialisme césarien. Et il en appelle à une source de vie généreuse, d'une pensée où la justice et la liberté se rencontreraient dans une unité charnelle. Les mots sont forts et ils se réfèrent à la Commune de Paris, à la Révolution en Catalogne en 1936. Il utilise même le mot, la formule, pardon, le génie libertaire. Cela fait notre espoir et nos raisons de lutter. Sa sympathie, le souligne-t-il, va vers les formes libertaires du syndicalisme. Et d'ailleurs, il a participé à de nombreux meetings pour dénoncer la répression et la dictature, notamment en Espagne, du temps de Franco. Il dénonce aussi le relativisme qui répand sa nonchalance aujourd'hui sur le thème du « tout se vaut ». Si l'on ne croit en rien, en effet, si rien n'a de sens et si nous ne pouvons affirmer aucune valeur, alors tout est permis et rien n'a d'importance. Alors il n'y a ni bien ni mal et Hitler n'a eu tort ni raison. Ce qui est évidemment inacceptable. Son engagement est un appel au combat. Et si l'on ne se bat pas, on adopte alors les valeurs de l'ennemi, même si ce sont des valeurs méprisables, puisqu'on les laisse triompher.
Il en appelle, je crois, à la solidarité entre les travailleurs manuels et intellectuels.
Oui, dans une conférence de 1953, il faut quand même se rappeler que dans les années 50, on est en pleine guerre froide. Hein. S'il y a vraiment une violence qui est assez étonnante. Aujourd'hui, on a d'autres formes de violence, mais là, c'est vraiment très fort. Il rappelle la solidarité entre les travailleurs manuels et intellectuels qui ont donné un corps à la liberté. Lorsqu'il fut affirmé que cette grande idée était une balançoire bourgeoise, ça c'était les communistes qui tenaient ce discours, en disant oui, la solidarité entre les travailleurs manuels et intellectuels, tout ça, c'est une balançoire bourgeoise. Elle fut condamnée dans de nombreux pays, et c'est à ce moment-là que le glacis totalitaire l'emporta, c'est-à-dire lorsqu'on divise les travailleurs manuels et les travailleurs intellectuels, un système totalitaire se met en place. Et il le dit, tenez, voilà, nous avons les phrases là que nous pourrions presque signer. On n'est pas Camus. La liberté n'est pas un cadeau que l'on reçoit d'un État ou d'un chef, mais un bien que l'on conquiert tous les jours par l'effort de chacun et l'union de tous. Notre foi est qu'il y a en marche dans le monde, parallèlement à la force de contrainte et de mort qui obscurcit l'histoire, une force de persuasion et de vie, un immense mouvement d'émancipation qui s'appelle la culture et qui se fait en même temps par la création libre et le travail libre. Enfin, dans ce recueil, dans ce livre, je soulignerai évidemment l'émouvant discours de Stockholm lors de la remise du prix Nobel. Nul doute que si cet homme n'était pas décédé dans un accident de voiture, les débats politiques au sein de la gauche auraient été autres. Alors, nous ne pouvons pas être là à dire qu'aurait fait Camus, qu'aurait dit Camus, c'est des choses, c'est des propos qui n'ont pas de sens, c'est des questions qui n'ont pas de sens. Il n'est pas là et qu'aurait-il fait, on n'en sait rien, peu importe. Mais on peut s'inspirer des valeurs qui sont les siennes. Et je n'utiliserai pas là le passé, mais bien les valeurs qui sont les siennes, car Camus est présent dans notre réflexion, pour mieux nous inspirer et nous-mêmes construire notre propre réflexion. Albert Camus, Conférences et discours, c'est édité chez Gallimard, collection Folio.
Voilà, c'est la fin de notre émission. Pas encore, je me trompe, comme d'habitude. Il y a quoi maintenant ?
Alors, on va peut-être aborder un autre temps d'histoire. Sur une erreur judiciaire. Une erreur épouvantable. J'ai parlé de l'affaire Dreyfus des pauvres tout à l'heure. Eh oui. Nous sommes au Havre, en 1910. La vie est dure sur les quais pour les dockers qui déchargent le charbon et qui sont en grève depuis 3 semaines. Je ne sais pas, vous avez peut-être déjà vu de ces photos en noir et blanc où on voit des hommes, ce sont des hommes, les dockers, là, qui descendent avec de très, très gros sacs et sur des planches. Bon, les mesures de sécurité ne sont pas extraordinaires. Et en face, donc, ils sont en grève depuis 3 semaines. Et en face, vous avez des armateurs qui enrage de constater cette solidarité. Il y a une solidarité ouvrière qui s'opère et qui tient, malgré leur refus du dialogue. Les armateurs ne veulent pas dialoguer. Alors, comme il y a une solidarité, eh bien, ils vont organiser une machination diabolique. Avec la complicité active de la presse réactionnaire et de juges aux ordres. Ils font accuser Jules Durand, le responsable syndical CGT, du meurtre d'un contremaître non gréviste. Alors là, la machine s'emballe. L'instruction est bâclée. Les témoins sont achetés. Les juges sont négligents et partiaux. Résultat, Jules Durand, victime d'un procès à charge, est condamné à mort. Eh oui, il est condamné à mort. En France, la justice est rendue au nom du peuple français. Mais quand la justice faillit, elle se dérobe. Elle louvoie. Elle traîne à reconnaître ses erreurs et en oublie le peuple. Souligne l'auteur de l'ouvrage que je suis en train de vous présenter, Maurice Edrich, qui lui-même est magistrat. C'est intéressant que ce soit un magistrat qui tienne ce discours. Et en fait, comme je le disais, oui, c'est l'affaire Dreyfus des pauvres. La violence de classe la plus abjecte. On fait condamner un innocent, et on sait qu'il est innocent, et tout le monde dans les arcanes sait qu'il est innocent, pour briser une grève et plus globalement un mouvement social. Aucun doute, Jules Durand est un anarcho-syndicaliste, autodidacte, membre de la Ligue des droits de l'homme, au service de ses camarades, en des temps où il n'était pas bon d'être syndiqué. Oh, c'est parfait, c'est une victime toute désignée. Et puis, accessoirement, il n'a pas forcément beaucoup de gens autour de lui. Ah, et d'ailleurs, il écrit à ses parents. ce n'est pas du parti pris qu'il faut dans un jury, c'est une conscience. Mais mal conseillé, le jury n'a pas mesuré les conséquences de sa décision. Durand, d'ailleurs, n'est pas très bien défendu. Il est défendu par un jeune avocat qui n'est pas un spécialiste de droit pénal et qu'on connaîtra plus tard, puisqu'il s'agit de René Coty, le dernier président de la 4e République. Dès qu'il est condamné, la mobilisation s'engage. Les syndicats, les partis politiques, la Ligue des droits de l'homme, la franc-maçonnerie, des personnalités comme Anatole France, et même des parlementaires de la droite modérée. Tous ont en mémoire l'affaire Dreyfus, et pensent que la justice va se ressaisir. Mais ils oublient un point, c'est que pour Dreyfus, la justice civile, la Cour de cassation, voulait donner une leçon à la justice militaire. Là, l'objectif clairement affiché consiste à criminaliser l'action syndicale. Enfin, en 1911, Durand est libéré. Mais vous savez, la machine judiciaire broie les personnes qui en sont victimes. Et Durand est devenu fou. En effet, comment un innocent peut-il supporter le couloir de la mort ? Il faudra attendre le 15 juin 1918 pour qu'il soit innocenté, mais brisé. On est bien d'accord. Il est libéré en 1911, mais il faudra encore attendre 1918 pour qu'il soit innocenté, mais psychologiquement, cet homme est brisé. Marcel Edrich, l'affaire Jules Durand, quand l'erreur judiciaire devient crime, le livre a été publié aux éditions Michalon en 2020. On en avait fait d'ailleurs un commentaire aussi dans le Monde Libertaire en version papier. Donc peut-être que certains d'entre nous peuvent le retrouver. Et puis, pour terminer, peut-être un peu de musique, Fred. Est-ce qu'on a une plage de Bill Evans, là ?
Oui, tout à fait.
Essayer de se détendre un peu après cette présentation que je trouve assez rude.
Une dernière séquence, une pépite. Nous avons déjà parlé dans une précédente émission du livre de George Orwell, Les Chroniques du temps de la guerre, 1941-1943, publié aux éditions Les Belles Lettres. Et c'était des chroniques littéraires, artistiques et politique sur cette période sinistre. Et justement, pour sortir de la sinistrose, on va dire, de l'époque, il développe dans une de ses chroniques sa conception de la poésie, l'intérêt de la poésie. Et Nathalie va nous en lire un passage.
Oui, page 110. La poésie est, de tous les genres littéraires, le plus caractéristique d'un génie national, voire régional, et, partant, le plus difficile à exporter ou à importer. On peut toujours parvenir à traduire de la prose avec fidélité, et il arrive même parfois que la traduction surpasse l'original. Mais la poésie, elle, est pratiquement intraduisible. Un poème, plus encore qu'un morceau de musique ou peut-être même un tableau, fait partie intégrante non seulement d'un lieu déterminé, mais aussi d'une époque donnée. Il est beaucoup plus facile de juger d'un poème en langue étrangère, ceci vaut également pour un poème écrit dans notre langue maternelle, lorsque l'on a quelques notions de son contexte social, moral et religieux. La musique de la poésie repose, en effet, sur des associations verbales et il faut, pour pouvoir la goûter, déceler dans une certaine mesure ces associations ou être à tout le moins en mesure de les imaginer.
Merci. Merci Nathalie. Et écoutez, vous voyez que nous arrivons à la fin de notre émission. Vous avez peut-être constaté qu'elle a été enregistrée pour faire face à des impondérables liés à des situations sanitaires et autres. Et nous vous retrouverons en direct dans 15 jours. D'ici là, l'équipe d'Au fil des pages vous souhaite ni Dieu ni maître, évidemment, toujours avec Léo Ferré.
Une cigarette sans cravate, qu'on fume à l'aube démocrate, et le remords qui coule de jatte, avec la peur. De ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un ballon vers les étoiles, et cette rose sans pétale qui tombe froide sur la dalle. Cet avocat à la serviette, ce taupe qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu. Ces bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ceux que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont. Ni Dieu, ni maître. Cette parole d'évangile qui fait imbécile et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Il y a toujours un côté Madeleine de Proust dans la redécouverte d'un livre. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, en complément de quelques ouvrages qu'on a abordés précédemment, et notamment du livre d'Élisée Reclus, d'un livre donc, dont j'avais vu l'adaptation cinématographique en 1975, « Dersu Uzala » par le grand cinéaste Kurosawa. C'est Nathalie, d'ailleurs, qui me l'a offert récemment. Quelle est l'histoire ? Eh bien, dans les forêts de l'extrême-orient russe, la région de Vladivostok au début du XXe siècle, Vladimir Arseniev, officier explorateur, passionné de science et d'aventure, se prend d'amitié pour un chasseur sibérien, Dersu Uzala, du peuple des Nanaïs. Il faut dire que, grâce à ses connaissances, son osmose avec la nature, ce chasseur qui ne partage qu'un sabir haché saura le sauver, lui, un scientifique patenté, d'une mort certaine près d'un lac perdu dans la taïga. J'en ai rencontré parfois de ces personnes qui feraient sourire avec mépris certains de nos concitoyens urbains. Dersu ne voulait et ne pouvait pas vivre en ville. Sa nature, c'est la nature. Ils font partie, ces hommes et ces femmes, d'un monde perdu, celui où les êtres humains savaient parler de la nature et à la nature, comme l'écrit justement Élisée Reclus dans le livre dont nous avons parlé précédemment. La fusion avec la nature est telle que son animisme lui fait s'adresser aux animaux, aux éléments, au vent, à la pluie, comme à des gens, ainsi qu'il le dit. Je vais vous donner lecture d'un petit passage. « Que les sangliers fussent des gens, pour Dersu, me stupéfiait, » dit Arseniev. « Je l'interrogeais à ce sujet. Eux, gens malgré tout, mais sous autre chemise. Eux comprennent que nous, rusés. Eux comprennent quand nous, fâchés. Eux, tout comprennent. Eux, pareil à Jean. J'ai compris. » Un homme du monde primitif, Dersu posait un regard animiste sur les choses et pour cette raison prêtait une âme humaine à tout ce qu'il voyait. Homme de la taïga, Dersu, lorsqu'il quitte un abri, ne manque jamais de l'approvisionner en bois et denrées pour ceux qui viendront après lui. Ce sens de l'altruisme, on le retrouve chez les montagnards, ceux qui mesurent le danger d'être pris dans les éléments en furie. Belle leçon d'entraide pour reprendre la formule de Pierre Kropotkine. Il y a d'ailleurs du Kropotkine chez Arseniev, explorateur de la Sibérie, comme Kropotkine, géographe, militaire, mais pas trop, comme Kropotkine, attaché à l'étude des mœurs et des populations. Et au détour des pages, il s'inquiète par exemple de la dégradation inéluctable de l'environnement. Et regardez par exemple les photos de l'époque, qui illustrent abondamment l'ouvrage, et rendez-vous sur les mêmes lieux en Oussouri aujourd'hui, les larges routes,
les usines, le monde urbain dominent et écrasent les territoires des peuples autochtones déculturés, dépossédés par la domination chinoise, puis la domination russe. Arseniev ressent avec tristesse cette évolution. Un jour, au bord d'une rivière, après une soirée en compagnie d'un vieillard, il se prend à constater qu'il régnait une parfaite harmonie entre le silence de la nuit et le calme qui trônait sur la nature. Chacun, dans des lieux reculés, le plus souvent en montagne ou en forêt, a pu faire ce constat. Et la description de la taïga est souvent magnifique. La rencontre avec les animaux, fascinante. Surtout, la rencontre avec Amba, le tigre. Je vais vous donner, là aussi, lecture d'une partie. Tout à coup, un feulement terrible, pareil à un grondement du tonnerre, roula dans l'air. Dersou me saisit la main. « Amba, capitaine, » dit-il d'une voix apeurée. Un sentiment horrible que je ne saurais traduire ici, malgré toute ma bonne volonté, me renversa le cœur. Je ressentis une espèce de poids alanguissant, une espèce de lourdeur me descendre dans les jambes. Une lancination affecta mes genoux. Quiconque a éprouvé une pareille peur peut se rendre compte de ce que j'ai ressenti. Et Dersou se tourne vers le tigre et lui dit « Bon, bon, Amba, pas fâché, non, pas fâché. Ça être ta place, nous pas savoir, nous trouve autre place. Beaucoup de place dans Taïga, faut pas se fâcher. » Et le tigre se retire, chacun semble avoir compris cet échange. Mais vous trouverez aussi d'autres rencontres, l'ours à collier, les loups, et toute une série de petits oiseaux assez étonnants dans cette taïga qui nous paraît si froide et enneigée quand on la voit uniquement sur des photos. Vous assisterez aussi au brame des wapitis. Oui, à lire indéniablement ce livre si vous aimez cette nature, d'autant que nous avons là une version qui est rétablie telle qu'elle était d'origine, car les soviétiques avaient bien évidemment éliminé un certain nombre de passages qu'ils avaient, pour des raisons qu'on n'est pas capable de comprendre d'ailleurs aujourd'hui, ils avaient éliminé un certain nombre de points. Et je reprendrai les propos du traducteur en français de l'ouvrage, Yves Gauthier, celui-ci. « On dira un passé lointain, mais qui dira qu'il s'est cicatrisé ?» Telle est l'œuvre d'Arseniev, lointaine et présente. Ces forêts qui brûlent, vous en verrez. Cette faune qui périt par la faute des hommes qui les bafouent. Ces peuples uniques qu'on acculture, ces vieux savoirs qu'on méprise, cette planète qu'on abîme, c'est Dersou, c'est nous. L'ouvrage est écrit au siècle dernier et l'auteur constate déjà cette dégradation. Je rappelle donc le titre « Dersou Zala » de Vladimir Arseniev aux éditions Transboréal, parution 2022. Nous aimons parler aussi, au fil des pages, de poésie. Alors, aujourd'hui, je voudrais aborder un livre qui vient de sortir dans la collection poésie chez Gallimard, « Sommeil », « Sommeil » au pluriel, de Robert Desnos. En couverture, Robert Desnos, endormi, souriant, tel le dormeur du Val. Et, petit livre, dès l'ouverture, surgissement de mots cheveux bleus qui ondulent sur la tête de Breton, des mots syncope, roulé-boulet, contraction, des mots flèche, des lettres qui existent, mais qui hésitent à devenir dessins, se cachent. Mots dans leur élan de mots, facis das. Vite, je referme. Et pourtant, genèse, explosion, on rentre sous terre. Il y a des mots crottins, des mots murailles, des mots sales, explosion de lettres. Et puis, vous verrez, une image prophétique, des dessins, des textes qui sont enregistrés alors que Desnos est sous Hypnose. Vous trouverez des textes incroyables. Les vestales de la poésie vous prennent-elles pour des vessies aux pétales? Les caresses de demain nous révéleront-elles le carmin des déesses? La couleur de l'éternité n'a pas de nom. Juchés sur des éléphants, les femelles inscrivent l'oméga mystérieux au ciel égal aux équations planétaires. Et enfin, le char de la chair ira-t-il loin sur ce chemin si long? Robert Desnos, Sommeil, édition Gallimard, collection Poésie. Bien, alors je voulais aussi vous parler d'un livre assez amusant, La Muse Rouge à la préfecture de police. Alors, La Muse Rouge, bien, vous avez un article qui est paru d'ailleurs dans Le Monde Libertaire du mois d'avril, où le copain fait une présentation assez développée, mais moi je voudrais revenir sur 2-3 points. Tout d'abord, La Muse Rouge, c'est une chanson au même titre que Le Père La Purge ou La Dame Dynamite, et c'est Constant Marie, ou surnommé d'ailleurs Le Père La Purge, qui avait créé un groupe, un mouvement, avec des personnes comme Gaston Coutet, comme Mépi Cray et aussi Sébastien Faure. Et puis, quelques années plus tard, on retrouvera Jacques Prévert et Pierre Dac. Alors, quel rapport avec tout ça? Eh bien, tout simplement parce que le livre que nous avons à présenter, eh bien, c'est rare de souligner qu'il se déroule dans les quartiers pauvres du 19e et du 20e arrondissement, dans la zone chère à Fréhel, dans les bordels glauques, ceux des quartiers plus chics, et on voit en fait évoluer une sensibilité anarchiste. On voit des gens qui se battent pour faire reconnaître leurs droits, et ce qui m'intéresse, c'est que la préfecture de police, la préfecture de police de Paris a délivré le prix du Quai des Orfèvres 2022 à ce livre, et livre qui présente sur un ton gouailleur l'argot du petit peuple parisien. Vous y retrouverez des références à des mémoires, à la bataille syndicaliste, à d'autres presses militantes. On croisera Maximilien Luce, Charles Davray, Soutine, Modigliani, bref, un ensemble d'auteurs, de peintres qui ont traversé ce début du siècle. On ne perd pas son temps dans cette agréable lecture qui mêle l'histoire sociale et romans policiers. Donc je signale, pour passer un moment de détente et savoir que ça a été primé par la préfecture de police, donc La Muse Rouge de Véronique Dehas aux éditions Fayard en 2021. Alors Frédéric, est-ce que nous avons quelques annonces avant la prochaine émission, qui sera donc le 27 avril, notamment le 16 et le 20 avril?
Oui, pour le 16, ce sera la montée au mur suite au décret de la Commune de Paris pour la réquisition des ateliers. Cela aura lieu le 16 avril, un samedi, à 15h, à l'entrée principale du cimetière du Père Lachaise, boulevard Ménilmontant, à partir de 15h. C'est à l'initiative du syndicat CNT Sub. Il y aura bien sûr une petite partie chanson, et ensuite, cela aura lieu au 33 rue des Vignoles, mais nous vous donnerons le détail sur notre blog. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, le 20 avril, nous aurons le ciné de la commune avec Colette Magny, plus une partie chant. Là aussi, cela sera annoncé sur notre blog en temps utile, et bien sûr aussi sur l'agenda militant indépendant, un autre site que, où nous posons nos annonces.
Tu peux nous rappeler où se trouve la projection de...
Ah oui, bien sûr, la projection aura lieu à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le Paris 11e, métro Oberkampf ou Fille du Calvaire.
D'accord, parfait. Alors, le 27 avril, on aura le plaisir de se retrouver en direct. Et là, nous accueillerons une spécialiste de Louise Michel, Claude Retta. Claude Retta, j'avais déjà parlé de son livre sur notamment les mémoires de 1886 de Louise Michel, qui était vraiment les mémoires, une recherche scientifique. Et là, elle nous présentera son livre « L'anarchie dans le prétoire », qui est une manière pour les anarchistes de défendre leur cause devant les tribunaux.
Et maintenant, l'émission se termine. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines, à la même heure. Et comme disait Pierre Dac, les temps sont durs, votez mou. Nous vous laissons avec ce beau duo de Francis Blanche et Pierre Dac, le parti d'en rire. Bonsoir.
Oui, notre parti, parti d'en rire. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
En parti pris, nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti. Qui soit un peu comme un parti. Un parti placé au-dessus des partis. En bref, un parti.
Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Qui puisse protéger la patrie de tous les autres partis. Et ceci jusqu'à ce qu'une bonne partie soit partie et que l'autre partie s'est partie. Et compris qu'il faut être en partie répartie. Tous en un seul parti. Notre parti.
Notre parti. Parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Nous avons placé nos idéaux bien plus haut
de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre marteau
des idéaux.
C'est le marteau de tous ceux qui n'ont pas pris le marteau.
Notre mieux grévin Dieu de Valdieu. De tous ceux qui n'ont pas pris le marteau. Pour que ce qui ne va pas aille encore mieux.
C'est le marteau de tous ceux qui n'ont pas pris le marteau.
Oui, pour vivre heureux. Prenons le parti d'en rire.
Oh, la joie et la gaieté peuvent nous sauver du pire.
La franchité,
la saignité,
la gaieté,
la bonne gaieté des familles.
Oui, notre parti, parti d'en rire. Oui, c'est le parti.
Et puis ça va comme ça pour aujourd'hui.
Nos buts sont déjà fixés.
Réconcilier les yeux brouillés.
Faire que le veau d'or puisse se coucher.
Apprendre aux chandelles à se moucher. Aux lampes pigeons à roucouler.
Amnistier les portes condamnées.
À l'exception des porte-manteaux.
Tiens, ça rime pas.
Je sais.
C'est pour ça qu'ils peuvent s'accrocher.
Exiger que tous les volcans soient ramenés une fois par an.
Simplifier les lignes d'autobus en supprimant les terminus.
Et pour prouver qu'on n'est pas chiche, faire beurrer tous les hommes sandwich.
Voilà quel est notre programme. Voilà le programme.
Mon île programme.
Parti d'en rire, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, notre parti,
oui, non,
c'est
merde, je vais te faire ce que.
Et voici ce qu'est notre parti,
oui.